Salut tout le monde, nous sommes le Conseil des jeunes de Mulhouse et on se retrouve aujourd'hui pour la pause Chocolat Chaud. Notre projet consiste à interviewer des personnalités publiques pour qu'ils nous parlent de leur parcours scolaire et professionnel, afin d'aider les jeunes et les rassurer dans leur choix d'orientation. Pour y arriver, nous utilisons différents moyens de prévention, donc en plus de notre podcast, nous prévoyons de distribuer des flyers et des squishies auprès des jeunes et plus particulièrement dans les établissements scolaires. Ces dispositifs vont nous permettre d'aider les jeunes face à la pression scolaire mais également au stress du quotidien. Et maintenant, je vous laisse écouter le podcast.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Saïd Boukara, ouais. J'ai 16 ans et je suis lycéen de la ville de Mulhouse. Ouais. Aujourd'hui, on va vous poser des questions. Et donc, bienvenue à nos auditeurs dans le pause Chocolat Chaud. Et donc, voilà, on va commencer. Je vous présente mon collègue Loïc Makalou et bonjour. Notre collègue qui se présente, Lucien.
Seconde, première, terminale ?
En seconde.
D'accord. Seconde aussi.
Ouais.
En
première. Très bien, donc moi je suis Luc, je suis président de la caisse d'allocation familiale et j'ai 51 ans.
Voilà.
Vous voulez commencer par une question ?
Allez,
on y va.
On commence.
Regardez, ils espionnent pour savoir. C'est fou.
Allez. Donc, qui vous a inspiré à l'époque et donc, à contrario, qui vous inspire aujourd'hui ?
Oui, parce qu'à l'époque, c'est quand même c'est quelqu'un qui était brillant, qui avait de la prestance, qui a fait un parcours incroyable, qui a redressé des entreprises. Et ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup inspiré ma génération. Et d'ailleurs, j'ai fait à peu près le même travail que lui des années plus tard. Voilà.
Ok, ouais. Super.
Voilà, oui, vous voyez comme quoi, c'est pas tout de votre génération, mais chacun est influencé. Je pense, moi, c'est pas les réseaux sociaux, mais c'était la presse.
Donc, puisque vous êtes devenu, entre guillemets, quelque chose que vous admiriez à l'époque,
ouais.
Est-ce que vous avez... est-ce que vous ressentez une fierté ou est-ce que vous ressentez du coup quelque chose, un comble, ou est-ce que vous avez réussi à combler quelque chose grâce à ça?
J'ai comblé, alors j'ai redressé des entreprises en difficulté, c'était mon travail, dans l'hôtellerie restauration, vous en avez parlé. Ouais, mon point de vue était de redresser des hôtels restaurants en difficulté. Donc c'était vraiment ce qu'aujourd'hui vous pouvez assimiler, on voit beaucoup la télé, les restaurants, etc. Je faisais vraiment ça dans les années 90, c'était vraiment mon travail. Content de ce que j'ai fait, ouais. Ça a comblé peut-être, ça a comblé le fait que mes parents et une entreprise, ils ont tout perdu. Donc c'était un peu une revanche, ça revient, c'est drôle, hein. Ça revient, ouais, c'est un peu une revanche sur la vie parce que mes parents n'avaient pas la culture qu'on a aujourd'hui, ils n'avaient pas accès, c'était des autodidactes, donc ils ont créé leur entreprise, mais un jour, ça s'est mal passé, les banques ont dit stop et ils ont tout perdu du jour au lendemain. Alors que, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance, ils ne savaient pas comment sauver leur entreprise. Donc ouais, je pense que le fait qu'ils aient cette longue expérience, ça m'a permis moi de... ça a influencé le choix de mes études, ouais. Clairement, apprendre le droit, apprendre la gestion d'entreprise et aujourd'hui, en plus de président de la CAF, je suis magistrat. Donc en face, là-bas au tribunal, je m'occupe de la sauvegarde des entreprises, du dressement des entreprises.
Ouais. Ok, donc voilà. Vous avez un quotidien bien chargé à ce qu'on peut voir.
En tout cas, comme vous dites, l'expérience de notre jeunesse fait ce qu'on est aujourd'hui. Ouais.
Exactement, je pense que c'est très bien dit. Et je pense que du coup, à votre tour maintenant, avec le discours que vous tenez aujourd'hui, vous pouvez devenir une source d'inspiration pour nous autres, les jeunes qui démarrons, entre guillemets, dans la vie. Hein. Et donc c'est un peu un accomplissement, je pense, quand même.
L'accomplissement, c'est juste d'avoir fait ce que je voulais dans la vie. Je me suis jamais mis une barrière, ni culturelle, ni économique, ni financière. Je me suis toujours dit que tout était possible. Il faut, hein. Là, c'est bien, vous avez déjà évolué, hein. Non, c'est ce que je disais, à un moment donné, il faut juste faire ce qu'on a envie. Je crois que si vous le faites bien. Il faut le faire bien. Ça ne sert à rien de faire les choses à moitié. Dès qu'on fait quelque chose bien, ça paye toujours. Voilà. Donc aspirant, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça me permet d'aider beaucoup de personnes dans une nouvelle fonction.
Voilà. En tout cas, moi, je vous le dis, en tant que jeune, moi, j'ai 16 ans à l'heure actuelle. Bah, moi, ce que vous dites, ça m'inspire. Sincèrement, ça m'inspire.
Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, vous savez?
J'ai peut-être une idée de domaine dans lequel je serai à l'aise, mais non, j'ai pas mis des fixes pour l'instant. Peut-être dans l'économie ou
quelque chose.
Qu'est-ce où il y a du contact, on va dire,
ouais.
À qui je pourrais parler avec des gens, avoir, à en apprendre tous les jours, parce qu'il faut pas s'endormir en n'ayant rien appris, bien sûr, que ce soit culturel ou même relationnel. Des fois, on apprend des autres, on s'imprègne de ce que les gens nous disent ou ce que les gens ressentent, et on grandit comme ça.
Mais vous savez que la formation, c'est toute la vie, hein. Ça ne s'arrête pas après l'école. Moi, quand je reprends les études, j'ai dû reprendre l'école nationale de la magistrature, parce que quand vous êtes juge conseillère, il faut reprendre les cours. J'avais plus de 40 ans, hein, j'avais 43 ans, 44 ans, donc ouais. Et en fait, il faut le sourder du clavier, c'est ce qui vous permet d'avancer. Et vous, jeune homme?
Ce que je veux faire plus tard, moi non plus, je sais pas trop, mais je sais que ça serait dans le domaine des sciences, notamment les mathématiques. Pourquoi pas m'orienter vers la finance ou peut-être l'astronomie. Un des deux, j'hésite entre les deux.
D'accord. Bon, de toute façon, vous avez le temps. Hein.
Ouais.
Et est-ce que vous souvenez ce que j'ai dit la dernière fois?
Par rapport à ça?
Et par rapport au choix qu'on fait?
Je me rappelle que vous avez dit qu'on peut avoir envie de faire ça maintenant, mais que peut-être plus tard, dans 10 ans, on a envie de faire autre chose. Et que si on veut faire autre chose, ben, pourquoi s'en priver, quoi.
C'est ça. Vous voyez, ça. En fait, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez décidé de faire ça et que vous avez même commencé peut-être des études hein, en astronomie ou autre, vous dites c'est pas mon truc, vous avez le droit d'arrêter là. Qu'est-ce qui va vous le reprocher? Enfin, le jugement des gens, vous n'avez rien à faire en fait. Vous avez le droit tout le temps de changer de métier dès que vous en avez envie. Enfin, moi je le vois, j'ai commencé dans la finance hôtelière, j'ai eu un restaurant, j'ai eu une entreprise de plomberie, aujourd'hui je suis magistrat, là je suis dans le social, enfin il ne faut pas se priver. Il ne faut pas rester cantonné à une chose parce que vous avez commencé. Ouais. C'est bien, vous avez bien retenu quand même.
Ouais,
il faut vraiment faire ce qu'on a envie dans la vie. Il n'y a pas d'erreur en fait. Tout ce que vous avez acquis, c'est une expérience. Parce que vous commencez dans l'astronomie, si demain vous n'avez plus envie, il y a les acquis. Il y a une espèce de réflexion, vous aurez appris des choses et ça vous servira toute votre vie. Donc la pression familiale, les gens ce qu'ils pensent, c'est derrière, on s'en moque. Hein. Non, mais c'est ça. Hein. On en parlait souvent, on fait à peu près le métier. Ils nous ont un peu inspirés, sur lequel nous ont guidé nos parents parce que c'est bien, c'est chic, ça correspond à l'image que veut la société. On n'en a rien à faire.
Est-ce qu'on peut s'attarder sur un petit sujet?
Allez.
Tant qu'on parle des parents, je peux vous poser une question sans indiscrétion, bien sûr. Vous avez des origines?
Moi? Oui. Aucune. Enfin, française, auvergnate, pourquoi?
Ok. Parce que nous, en tant que Nolisien, comme on le sait, c'est une des villes les plus cosmopolites de France, si c'est pas elle. Bon.
C'est la ville la plus de nationalité en France.
Exactement, on a beaucoup de culture ici.
Ouais.
Et donc la place des parents ou la place de l'enfant, ou bref, la place de beaucoup de membres de la famille, elle est très changeante selon les cultures.
Ouais.
Et moi je suis entièrement d'accord avec vous, hein, la pression sociale, franchement on s'en fout. La pression sociale, il faut passer au-dessus si on veut atteindre réellement nos objectifs. Parce que c'est juste un obstacle de plus en vérité. Mais la pression familiale,
elle est
énorme.
Moi, j'habite à Mulhouse depuis 25 ans, je la vois, je la connais, j'ai des salariés, j'ai des amis, je vois l'influence qu'ont parfois les parents, les traditions, parfois les parents prennent beaucoup de place, trop de place peut-être, mais c'est aussi votre génération qui doit faire changer les mentalités. Je sais, c'est très compliqué. C'est très compliqué. J'ai accompagné des proches dans des démarches qui paraissaient fous. Une femme musulmane divorcée, c'était impensable encore quelques années. Et pourtant, maintenant, ça arrive. Vous voyez, voilà. Je pense que c'est aussi à vous à faire comprendre à vos parents que vous êtes libre de vos choix. Mais c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas que les parents, il y a toute la famille. Il y a toute la famille derrière. Et on a un peu peur d'être rejeté, non? C'est quoi le sentiment que vous auriez dans ce cas-là?
Ouais, un peu d'être rejeté.
Ouais.
Aussi le fait d'être l'aîné.
Ouais.
Par exemple, moi je suis l'aîné. C'est tout. On te reproche tout. Tout.
Vous avez
tu prends tout.
Ah, vous avez une obligation d'exemplarité.
C'est ça.
Ouais.
On est l'exemple, on doit bien faire les choses, on doit être le meilleur. Ouais. Et c'est assez compliqué.
Est-ce que vous avez ce ressenti, ce sentiment, parce que vos parents rêvent, leurs rêves au travers de vous? Est-ce qu'ils aimeraient que vous fassiez ce qu'eux n'ont pas réussi à faire?
Oui. Moi par exemple, ma mère a toujours voulu que je sois pilote.
C'est bien parce que vous découvrez quelque chose, mais c'est bien, hein, vous voyez, voilà, c'est le fantasme du pilote, il gagne bien sa vie, c'est du réussite sociale, on a tout ça. Ouais.
Et ça m'a un peu pris mentalement.
Mm-hmm.
Bah, du coup, ma mère, elle voulait, je vais faire plaisir à ma mère, je vais être pilote de ligne. Alors que je m'y suis intéressé, j'aime bien les avions, Et sans plus, c'est pas une passion, c'est pas quelque chose que j'aimerais exploiter.
C'est pas quelque chose qui me fait vivre, on va dire.
Ouais. Non, je suis d'accord, mais en fait, la charge mentale est déplacée. C'est pas à vous à assumer ce que vos parents vont. Ils vous mettent une pression alors qu'il n'y a pas de pression à avoir, en fait. Mmh. Voilà, et c'est vrai qu'ils veulent vivre certainement leur rêve au travers de vous, mais c'est pas à vous à assumer ça. Pourtant, vous avez 16 ans, 15 ans.
Mais en fait,
c'est dingue, quoi. Vous voulez en parler avec elle?
Oui, non, au début, ça va mieux.
Ça va mieux.
Oui, j'ai expliqué, j'ai dit, vraiment, ouais. J'ai peut-être pas envie de faire ça, mais en fait, il n'y a pas de souci.
Voilà, mais il faut leur dire, hein. Parce que les parents, vous savez, moi, ma génération, on devait être soit médecin, soit avocat. Le médecin, respect, l'avocat, respect. Aujourd'hui, je peux vous dire, il y a des avocats qui sont au SMIC et qui ont demandé les RSA pendant le Covid. Hein. Donc,
j'aimerais y venir. C'est...
on connaît les avocats.
Moi, je suis vraiment par rapport à ça. Par exemple, moi, ma mère, elle m'aimera. Enfin, avant, elle voulait que je sois aussi médecin et avocat.
Ah, mais ça, comme quoi, à 30 ans d'écart, c'est la même chose.
Ouais, voilà, et maintenant, elle veut juste que je devienne ce que j'ai envie de devenir. Mais par exemple, moi, dans mon cas, sur toute ma famille, ma mère, elle me dit souvent. Toi, par exemple, toi, t'es né en France, moi, je suis né au Cameroun. T'as eu plus de chance que moi dans la vie, donc essaie de faire quelque chose de grand parce que tes cousines qui sont là-bas, elles n'ont pas eu cette chance. Tes tatas qui sont au Cameroun, elles n'ont pas eu cette chance. Donc essaie toi de faire quelque chose de grand pour montrer que t'as eu une chance dans la vie de naître en France et pas dans un pays qui n'est pas développé. Donc essaie de faire un grand métier pour rendre ta famille. Ça, c'est un autre type de pression.
Vous lui posez une question à votre mère? Est-ce qu'il faut que vous fassiez quelque chose de grand ou quelque chose avec grandeur? C'est complètement différent.
Et c'est fort ce qu'il vient de
dire. Avec grandeur, ça veut dire que vous faites bien, à fond, et voilà. Parce que grand, ça ne veut rien dire, oui, quelque chose de très reconnu. Parce que vous pouvez faire, regardez, on prend les gens ici, on a Conchita, ce qu'elle fait, elle fait avec passion. Ouais. Elle aide beaucoup de gens, enfin à un moment donné, et c'est vraiment ça qu'il y a des ministres. Ministre des familles, hein, et ça n'a rien à voir. Grand, moi, une grandeur. Tiens, moi aussi, je vais réfléchir là-dessus. Non, parce que ça paraît tellement évident que... Et vous, donc, parce qu'on a fait une première interview, mais vous allez dire à vos petits copains ce que vous voulez faire? Ils le savent?
En fait, moi, je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Ouais. Exactement, je ne sais pas où. Mais en fait, souvent, je change. Il y a des jours où j'ai envie de faire un bouquin.
En fait, ça fait rêver de rendre fier ses parents. Ça fait rêver d'être la fierté familiale. Mais est-ce que ça fait rêver dans un sens où on a besoin d'approbation? Ou est-ce que ça fait rêver dans un sens où c'est quelque chose qui nous fait vivre? Et comme je dis souvent, il faut vraiment qu'on se sente vivre quand on fait quelque chose qu'on aime. Par exemple, comme dit, je vais revenir au fameux moment où on est soit avocat, soit médecin. Moi, mes parents, depuis que je suis petit, ils ont remarqué que par exemple, j'ai une très bonne mémoire, j'ai une bonne capacité cognitive et que... Heureusement, je m'exprime bien. Et donc, ils m'ont souvent mis cette étiquette-là de « il faut qu'il fasse médecin, il faut qu'il fasse avocat, il lui faut un métier de lettres, il lui faut un métier où il y a de la mémoire. » Mais comment ça, il lui faut? Peut-être que c'est un métier pour lequel j'ai des bonnes aptitudes, certes, mais c'est pas quelque chose qui me fait rêver, pas quelque chose qui me fait vivre. Et pas qu'on est pas forcément le fait qu'on est toujours en recherche d'une difficulté, mais si à quoi bon faire un métier qui me plaît pas, dans lequel je m'ennuie? Si je m'ennuie avec des choses où je suis fait pour ça. Je suis déjà fait pour m'adapter aux circonstances. Il n'y a aucune surprise, il n'y a aucune passion dans ce métier. On ne découvre rien.
Et moi, je vous rejoins, mais en même temps, si les parents écoutent ça, je vais me faire allumer. Mais, en même temps, vous n'avez pas besoin de chercher la fierté de vos parents, il faut être fier de vous, hein, fier de ce que vous faites. Si vous cherchez la reconnaissance de vos parents, vous êtes à côté. Hein. Enfin, pour moi, enfin... Moi, je trouve que c'est taper à côté, juste il faut être fier de ce que vous faites pour vous, mais pas pour les autres. Donc forcément, vous n'allez jamais être d'accord. Ne vous inquiétez pas, c'est le cycle de la vie. On n'est pas d'accord avec les parents, ensuite on a une grosse engueulade, il y a une rupture familiale, et puis après on se réconcilie. Mais on l'a tous fait, on l'a tous vécu. Vous allez voir, dans 10 ans, on en reparlera. Parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'à un moment donné, nos parents, c'est les plus cons du monde, et c'est enregistré, bravo Luc, c'est les plus cons, et ensuite on va se rendre compte qu'ils ont raison, finalement, sur certains points. Mais en tout cas, il faut faire les choses pour vous, pas pour vos parents,
c'est sûr. Bien sûr. Et après, je pense que si nos parents ils vont s'adapter en fonction du caractère de l'enfant, il faut se le dire, parce que moi, à l'inverse de mes camarades, je suis le dernier de la famille. et du coup, disons que les parents, cette pression qu'ils mettent au premier, ils vont essayer de l'atténuer sur le dernier parce qu'ils voient que ça n'a pas payé. Donc on ne reproduit pas les mêmes erreurs sur des individus différents en plus. Surtout qu'on a des caractères vraiment un peu similaires. Par exemple, moi je suis une tête dure. Quand on me dit non et que moi je veux, ben moi je veux, c'est tout. Donc ça, on va pas utiliser, comme je dis souvent à mon ami, on va pas utiliser des réactifs différents avec une solution différente. Mm-hmm. Des mêmes réactifs avec une solution différente, ça va donner un résultat différent.
Non, mais c'est de toute façon, les réactions sont toujours différentes selon les personnes. Très bien. En tout cas, voilà, seul truc par rapport à cette question, faites les choses pour vous, pas pour les autres. Sur le regard des autres, vous savez, vos amis aujourd'hui dans 10 ans ne seront pas les mêmes, bon, la famille sera la même, mais il y a aussi de la provocation de la part des parents, ils attendent aussi peut-être que vous deveniez indépendant. Hein. L'histoire, t'es pas assez grand, combien de fois vous allez l'entendre, tu te débrouilleras quand tu seras adulte, quand tu t'assumeras. Ne t'inquiète pas, le jour où vous assumerez, ce sera quand même pareil. Hein. Parce qu'on a toujours le respect de ses parents et vous ferez toujours engueuler par vos parents et ça n'ira jamais parce que c'est pas comme ils veulent eux. Vous allez acheter une voiture, pourquoi t'acheter une voiture, t'as trop dépensé, vous allez partir en voyage, garde ton argent, t'as autre chose à faire. Ils seront jamais d'accord avec vous, jamais. Donc partez sur ce principe, au moins si vous engueulez, vous savez pourquoi. Non mais c'est ça, hein. Vous, présent familial, ouais, la pression de l'aîné, ça doit être un peu compliqué. Hein. J'avais un frère qui était extrêmement brillant, enfin j'ai vu qui était extrêmement brillant et intelligent. Le problème c'est qu'il a mis la barre tellement haute, mais vraiment très très haute, que la poursuivi derrière, nous c'était, on a ramé derrière, donc attention, pas trop haute pour les suivants, s'il vous plaît. Parce que après on a dit, oui, au moins ton grand frère, lui, il a tout eu du premier coup, il a tout fait. Pensez à mon petit frère, mon petite soeur.
En fait, comme elle a dit Luciana tout à l'heure, elle a très bien illustré. Comme nous, on est des enfants, on n'est pas des immigrés, mais on est issus de l'immigration africaine. On se rend compte souvent qu'il y a ce décalage avec les générations d'avant. Parce que nous, on a grandi ici, on a grandi en France, nous sommes français. Et nos grands-parents ou nos parents, ils ont un énorme décalage. Parce que eux, ils ont ramé à mort quand ils sont arrivés ici, pour que ce soit face à... politiquement, c'était compliqué parce qu'ils n'avaient pas forcément les papiers. Relationnellement, ils n'avaient pas du tout la même culture. Ils ont dû faire face à des choses auxquelles nous, on n'a pas souvent fait face dans notre vie. Par exemple, la barrière de la langue, nous, on l'a pas ça. On a grandi dans l'école de la République, on sait, on s'exprime bien. Et eux, ils auraient aimé avoir ça. Et nous, on s'en sert pas comme eux, ils s'en seraient servis parce que c'est un outil énorme. Et nous, on fait pas forcément face au racisme tous les jours comme eux ou ce genre de choses. Et ah, eux, ils nous donnent des occasions que nous on saisit pas forcément, alors que eux ils en auraient fait quelque chose de grandiose peut-être.
Ouais, ça c'est sûr. Après c'est des avantages, mais c'est aussi l'avantage de la double culture, que finalement je pense que vous allez en retirer quelque chose.
Bien sûr.
De leur expérience ou de leur l'ami qu'ils avaient avant ou de leurs grands-parents qui ont connu, je pense que.
On en retire toujours quelque chose hein, quelque part.
Après, c'est le principe d'une société, hein, parce que vous savez, il y a un mot très à la mode en ce moment qui m'insupporte, on parle d'inclusion. Mais par définition, une société inclusive parce qu'elle prend tout le monde. Mais finalement, je pense que tout le monde a sa pierre à rapporter. Enfin, une pierre aussi. Moi, je crois que c'est... Ouais, ça devait être compliqué, mais il ne faut pas culpabiliser parce que vous êtes français, vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes français, point. On a tous la chance d'être dans un pays où on fait à peu près ce qu'on veut. Quand on a quelques difficultés, on nous aide, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, mais on ne peut pas non plus nous faire culpabiliser parce que. Moi, mes parents essaient de me faire culpabiliser parce qu'ils ont tout perdu. Je dis, oh, c'est vous qui vous êtes planté, c'est pas moi, à un moment donné. En vouloir au monde entier, voilà, je comprends, mais en même temps, je ne vais pas culpabiliser parce qu'à un moment donné, vous avez été malheureux dans votre vie. Enfin, voilà, on peut l'entendre, on peut le comprendre, ouais. Mais, vous êtes conscient de toute la chance qu'on a d'être ici. C'est le plus important, je pense.
Je pense, oui.
Bon, merci de ma vidéo. Question suivante, c'est ça ?
Ouais, allez. Comment avez-vous choisi votre orientation ?
Ah, bah, les hôtels, parce que je te dis que je redressais des hôtels en difficulté. J'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents quand j'étais jeune. Voilà, ils avaient leur petite entreprise, on était tout le temps partis en voyage, en vacances. Et au moment où mes parents ont perdu l'entreprise, j'avais 15 ans et demi, 16 ans, et j'ai eu la chance, c'est terrible de dire ça, j'ai eu la chance, malgré cette expérience, on s'est retrouvé à 5 dans une caravane. Donc vous voyez, on a vraiment tout perdu. Mais la chance d'aller à Antibes, en Antibes, j'en ai pas dans le sud de la France, de vivre dans un camping quelques mois avant de retrouver un appartement, etc. Et j'avais plus accès à cette hôtellerie. Alors avant, j'étais tout le temps en vacances avec eux, je partais, je profitais des hôtels, du luxe, des restaurants. Et puis je me dis, j'adore ce milieu-là. Et donc, pour y accéder et pour y vivre, autant travailler dedans. Donc j'ai fait des études en ce sens. Donc j'ai passé, voilà, j'ai fait ma terminale et ensuite je me suis spécialisé dans la finance hôtelière. Voilà. C'est comme ça, parce que j'avais envie de continuer à vivre dans ces établissements. Donc autant aller dedans, ça me plaisait. Comme vous avez dit tout à l'heure, être au service des gens, rendre service, avoir du contact, il n'y a rien de tel. Donc j'ai fait ces études spécialisées dans la finance hôtelière. Voilà. Et ensuite, ça s'est affiné parce qu'on était formé à diriger des palaces dans cette école. Voilà. Et donc, au travers des stages que j'ai faits, c'était pas du tout pour moi. J'adorais, mais lorsque vous êtes dans des établissements très haut de gamme, c'est très sectorisé. Quand vous êtes directeur, vous avez toute une équipe qui bosse pour vous, mais la plupart du temps, vous n'êtes pas en contact avec la clientèle, vous êtes enfermé dans votre bureau, il y a vos équipes, le front office, la réception, la conciergerie, toutes les équipes, c'est votre travail de diriger, mais très peu en contact avec la clientèle. Et ça m'ennuyait tout le temps, pour ça, costume, cravate, c'était insupportable. Et c'est pour ça que le choix d'aller sur des établissements où je redressais les hôtels, là je faisais tout. Il fallait faire la plonge, la réception, le service, l'accueil, et c'est ça.
Est-ce que vous pensez que vous avez du coup ce besoin de contrôle? Vous avez besoin d'avoir la situation...
Tout le temps, clairement. je ne sais pas si ce n'est pas héréditaire, mais quand vous avez un père qui était chef d'entreprise, il y a forcément la reproduction du schéma, et je voyais, c'est compliqué d'être chef d'entreprise, mais c'est une liberté énorme. Voilà. Vous donnez toujours des comptes à quelqu'un, ne serait-ce que vous avez une entreprise, vous avez des impôts, des taxes à payer, etc. Par contre, la liberté de l'emploi du temps, de ce que vous voulez faire, et ne pas recevoir d'ordre. Wow. Bon, ça dépend des caractères, mais...
voilà comment... besoin d'ordre pour se repérer, mais...
Ouais, mais moi, pas du tout. Hein. C'est... Oh non, c'était hors de question que j'ai un jour un employeur, j'ai jamais d'employeur, et ça me va très bien. Mais ça, après, vous ne le savez pas non plus comment vous allez réagir. Bon, vous, après, vous avez un caractère qui va plutôt au sens, mais est-ce que vous vous sentez capable de recevoir des ordres?
Voilà. J'aime pas ça,
mais
s'il le faut.
Non, ça s'appelle de la résilience.
Oui, c'est de la résilience.
C'est vrai.
Je teste ça.
D'accord. Et vous?
Moi, en fait, il faut un peu me guider, mais des ordres, ouais, non.
Quand on dit des ordres, c'est guidé. Hein. Aujourd'hui, on n'est plus dans les années 30 ou au siècle dernier où c'est comme ça, pas autrement. On a, dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui, on discute avec les salariés, on met des actions en place, on met des objectifs. C'est plus...
Tu fais ça.
Et en plus, comme dit à l'époque, je pense qu'il y avait surtout cette... c'était une fierté de travailler. Il y avait quelque chose de glorifiant dans le fait de travailler. Et des fois, il y avait des entreprises qui... on les caractérisait plus d'entreprises familiales. C'est-à-dire que les gens, ils allaient... ils travaillaient et des fois ils faisaient des heures supplémentaires parce que c'était une fierté de sortir de son travail, alors que maintenant quelqu'un est fini à 17h, à 16h59, il est déjà habillé, il est dehors.
Qu'est-ce qui a changé à votre avis?
Les mentalités.
Ouais, et on est passé de quoi à quoi? On est passé de la culture du travail à la culture du congé.
Ouais, c'est vrai.
Et ça c'est... je sais pas si c'est bien ou pas, mais pour avoir beaucoup de salariés, c'est vrai que souvent, la première question lors des entretiens d'embauche, c'est quand mes jours de repos? C'est très particulier quand c'est la première question. Je suis payé combien et c'est quand les vacances? C'est pas très motivant non plus aujourd'hui pour un employeur de commencer un entretien d'embauche par ça en fait.
Mais je
alors on sait qu'il y en a, mais au lieu de demander ça va être quoi mon travail, quelles sont mes responsabilités,
Je pense que c'est surtout le système scolaire français qui formate un petit peu cette mentalité. Parce que, en fait, disons que... bon, on se casse pas le dos non plus, mais entre guillemets, on se tue à la tâche, on arrive, des fois on rentre, il fait nuit et tout, alors qu'on a des systèmes dans d'autres pays qui sont beaucoup plus vivables, on va dire. Mm-hmm. Ils ont des meilleurs niveaux que nous, alors qu'ils travaillent beaucoup moins que nous, globalement. Mais donc voilà, nous, voilà, on sait qu'on a des semaines vraiment très très remplies, donc on n'attend qu'une seule chose, c'est le moment où on se repose.
Remplies? Comment elles sont remplies, vos semaines?
Elles sont remplies quand même, hein, qu'on se dise.
Dites-moi.
On peut avoir quand même en deux jours quatre fois la même matière, c'est pas rien.
Ouais, mais en nombre d'heures,
4 heures du coup.
Une semaine de cours aujourd'hui, c'est combien pour vous?
Une semaine de congé.
Une semaine de cours, combien d'heures au total?
Ouais, vous avez quel jour? Enfin, samedi, dimanche, vous n'avez pas l'école.
Oui,
le mercredi, vous y arrivez ou pas?
Oui.
Parce que, voilà, ma génération, c'était lundi au samedi. Du lundi au samedi.
Mercredi compris.
Mercredi compris, matin. Et le samedi matin, oui. Ok, vous voyez, il y a quand même une je sais pas si on parle d'amélioration, mais en tout cas, voilà, on allait du lundi au samedi à l'école.
Et je pense aussi que notre génération, elle n'a pas la même manière de penser que la précédente, parce que déjà on est surstimulé, qu'on se le dise, hein. On est tout le temps sur les écrans, on a tout le temps on a tout le temps quelque chose dans les oreilles. En fait, il n'y a pas un moment dans la journée, à part le moment où on dort, où un sens n'est pas stimulé. On a toujours quelque chose en bouche, quelque chose dans les oreilles, quelque chose devant les yeux. On est surstimulé, donc ça fait de nous des gens impatients.
Et vous avez calculé, depuis, le nombre d'heures que vous passez sur le téléphone?
En une journée, c'est 24 heures. Je pense que je peux faire 10 heures par jour, peut-être plus. Mais...
Donc, des fois, si.
Plus. Des fois, beaucoup plus, des fois même. Mais,
il y a peut-être des pauses, mais...
Oui, il y a des pauses, bien sûr.
Et vous?
Moi, ça dépend des moments, mais ouais, c'est vrai que je peux être... mon max, je pense que c'est 12 heures. 12-13 heures.
Une demi-journée quand même.
Ouais, c'est vrai que
c'est énorme, une journée entière, vrai pour d'or. Mais ouais, donc vous avez raison, une surstimulation. Est-ce que vous êtes capable de vous passer du téléphone une demi-journée?
Pour combien de temps? On peut s'en passer, mais pour combien de temps?
Très honnêtement.
J'ai réussi à m'en passer pendant à peu près, enfin de mon téléphone, pas des écrans tout, juste de mon téléphone. Pendant une semaine et demie, mais c'est parce qu'il était cassé, c'était pas un choix, mais c'était une expérience, donc ça m'a fait du bien d'une façon, mais je me sens, là c'était parce que c'était quelque chose, j'avais pas le choix,
c'était subi,
mais après, quand j'ai récupéré mon téléphone, je me suis dit, waouh, je viens vraiment passer presque une semaine et demie sans téléphone, et, enfin maintenant je ne vois pas le refaire, à part si vraiment j'ai pas le choix, mais... Ça fait un peu plus bien de poser ses yeux.
Ça montre qu'on est vraiment dépendant du...
Ouais, on est très dépendant.
Ouais, je suis d'accord. J'ai vécu cette expérience il n'y a pas très longtemps. Je faisais de... Pour vous dire, en octobre l'année dernière, je faisais la clôture des boîtes de nuit à Ibiza. Ça m'arrive encore. Et le soir, j'étais en sortie. Je pose mon téléphone sur une table. Il y a de l'alcool dessus. Téléphone mort. J'étais en panique toute la nuit. Et le lendemain matin, à 9h, je disais, bon, la boutique pour acheter un nouveau téléphone. Parce que je pouvais le faire. Je ne voyais pas rester plus sans téléphone. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un problème. Et là, j'ai commencé à faire mes tests pour essayer de m'écouter le cartable de téléphone. Parce que de là à rentrer à 4h du matin et être à 9h devant la boutique pour avoir un nouveau téléphone, parce qu'il fallait tout de suite une nouvelle connexion, ouais, ça pose problème.
Après, je pense
ma génération. Hein,
je pense que vu le métier que vous faites, c'est un petit travail.
Non, c'est faux.
Ah ouais?
C'est complètement faux, c'est d'une débilité incroyable. C'est pas votre question, hein, mais on pense que c'est indispensable. Je suis parti en vacances il n'y a pas très longtemps, je suis parti 15 jours. Et j'ai coupé le téléphone, j'ai gardé juste la connexion internet pour dire à mes équipes que j'étais joignable sur WhatsApp en cas d'urgence. Et les mails, je ne les consultais pas. Donc vraiment, ils pouvaient me joindre sur WhatsApp en cas de gros problème. Ben, clairement, j'ai eu deux messages en 17 jours. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'urgent. J'ai fait mes mails en arrivant à l'aéroport à Paris. Alors, il y avait des centaines de mails, hein. Il y en avait trois urgents. Trois. Il n'y a rien d'urgent dans la vie. Sauf s'il y a un décès. Voilà, quelqu'un de proche. Mais il n'y a rien d'urgent, en fait. C'est nous qui créons l'urgence. Et là, je me dis, zut, alors finalement, tu es toujours à côté avec ton téléphone en train de regarder ce qui va se passer. Mais finalement, bah, les équipes, elles se débrouillent sur moi. Quand vous n'êtes pas là, ils font sans vous, hein, les gens. Ils trouvent des solutions. Si vous êtes tout le temps là à les aider, à répondre tout le temps oui quand ils vous sollicitent, forcément, vous allez dire, tiens, on est obligé. Mais quand vous n'êtes pas là, il se passe de vous. Hein. Non. On pense qu'on est indispensable, on pense que tout est urgent, mais rien du tout. C'est dur à entendre. Hein. Mais non, il n'y a rien d'urgent. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi une situation d'urgence. Là, aujourd'hui, vous avez reçu des mails, des SMS. Qu'est-ce qu'il y avait d'urgent?
Moi, en tant que jeune, ma vraie situation d'urgence, c'est des appels manqués. Hein. Ah, ça fait peur. Hein.
Ah ouais, pourquoi?
Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a une pression déjà, et comme on est surstimulé, et ben, quand on décroche justement du téléphone, parce que là, il y a deux jours, je sortais avec un ami, donc avec Loïc, on était dehors, et j'ai pas vu le temps passer parce que j'avais le téléphone dans la poche. La notion du temps est complètement différente. La notion du temps est complètement différente quand on l'a pas. Et il faut savoir que moi, heureusement, enfin, mon père et ma mère, ils m'ont pas mis de 4G, donc j'ai pas de connexion quand je suis dehors, j'ai joué uniquement à la maison. Donc ça limite un peu le temps quand je suis dehors. Et je vois pas le temps passer. Donc, genre, mon père, il m'envoie 3 appels manqués, 2 messages. Je suis en panique. Et ça, pour moi, c'est un truc de ma situation d'urgence à moi, à mon échelle, on va dire.
Ouais, mais c'est, ah oui, mais c'est pas votre situation. C'est cette situation d'urgence à votre père. Lui, quand il avait votre âge, il avait pas de téléphone, ça allait bien. Hein. Il rendait pas des comptes à ses parents. Hein. C'est votre père qui fait la situation de vous. Vous n'avez rien fait, vous savez que vous êtes là, tout va bien. Hein. C'est une prison dorée, hein, le téléphone, hein, c'est un fil à la patte. Hein.
Mais c'est, voilà, ouais, c'est ça. J'ai un exemple sur ça, je me rappelle, c'était cette année.
Non, mais il inverse les rôles. Hein. Si c'est lui qui est en panique, c'est pas votre problème.
Après, je suis rentré particulièrement tard aussi, mais c'est clair.
On est d'accord, mais quelque part, il n'y avait rien d'urgent, juste vous n'avez pas répondu au téléphone quand il a appelé. Ouais. Oui, vous avez une soufflante. Voilà. Je sais pas. Vous, dites-moi une situation d'urgence.
Bah en fait, moi, c'est vrai qu'il y a vraiment. Je vois très peu d'urgence. C'est juste une fois, il y avait une amie qui m'avait appelé en panique parce qu'elle avait eu un gros problème. Mais encore une fois, c'est pas mon urgence. Enfin, c'est jamais mes urgences à moi. Hein? C'est toujours les urgences des gens. Et du coup, j'en fais mon urgence à moi aussi.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a aussi un déplacement d'urgence.
Oh, moi, j'ai pas d'urgence.
Bon, voilà, là, c'est votre mentalité aussi. Non, mais c'est ça, en fait, finalement, quelle que soit votre fonction, hein, c'est. Oui, la dernière fois, on a eu un décès sur dans une structure, là, c'est. Oui, il faut quand même régler le problème. C'est pas moi qui l'aurais réglé, c'est quelqu'un d'autre. Mais les situations d'urgence, c'est très, très rare, en fait. C'est très, très rare. Bon, après, je dis pas, les pompiers, c'est urgent, la police, c'est urgent, quoi, des situations comme ça. Mais dans la vie de tous les jours, du quotidien, en fait, il n'y a jamais rien d'urgent. Réfléchissez à ça, sur les situations d'urgence.
Mais j'ai réfléchi souvent justement à. Enfin, pas, je dis pas le terme situation d'urgence, mais pour moi, je trouve que le stress, c'est souvent une illusion. Je trouve que le stress, c'est quelque chose qu'on se crée soi-même. Et comme je vais revenir à. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pour refaire le lien, la pression familiale, elle y est pour beaucoup. Pour beaucoup, parce que moi, j'ai une famille de gens très speed, très énergique, il faut
carburer
au stress, on va dire.
C'est héréditaire, hein. Il est tout le temps comme ça. Alors que vous, c'est.
Il carburer au stress,
ouais,
on va dire.
On crée ce stress, enfin, on crée plein de choses. On sait pourquoi, en fait. Faut s'interroger.
Ouais, faut se poser.
Faut se poser les bonnes questions, à un moment donné. Enfin, non. Et puis si vous êtes en retard, vous êtes en retard, hein, c'est pas la fin du monde non plus.
Ah, on en sait quelque chose tous les deux.
Vous êtes des champions du retard.
Ah, oui.
Ouais.
C'est
pas
vous.
Si,
bah, c'est celle qui nous appelle.
Ah, bah, elle peut pas passer 12 heures par jour sur le téléphone, elle n'est pas en retard.
Si, en fait, à un moment ça va mieux, mais à une époque j'étais une grande. J'étais jamais à l'heure. Et un jour, je suis arrivée en retard au collège avec mes amis et on était devant le collège. En fait, notre collège il avait des baies vitrées, enfin, des fenêtres et. Pour passer devant le collège, on devait passer devant toutes les fenêtres. Il y avait notre professeur principal. On entrait dans le collège, il nous regardait, on devait être dans son cours. Et il nous regardait en mode, oh non, pas vous encore qui est en retard. Et du coup, on arrive et on arrive dans le collège et il nous envoie tout de suite dans le bureau de la CPE. La CPE, elle nous fait un caca nerveux et elle nous menace que si on est encore trop en retard, elle nous mettrait une amende. Là, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que bon, t'es un peu trop en retard,
C'est elle qui se stresse tout seul, hein. Ouais. Elle se fait monter la pression toute seule, hein. Vous êtes en retard, à un moment donné. Ouais, non, mais après.
C'est un mordeur.
Mais c'est ça, en fait. Oh mon dieu, je dis ça encore, mais à un moment donné, c'est elle qui s'emballe pour rien. Ouais. Elle peut vous dire oui, tu vois, il est plus en retard, oui. L'approche, et puis si elle a envie de se stresser tout seul et faire monter la pression.
Ouais. Mais comme dit, je pense que c'est un l'Occident qui a assez. On est très, très speed en Occident. J'ai pas visité énormément, mais quand on s'informe un petit peu sur les autres cultures, ils sont beaucoup plus détendus que nous, ils sont beaucoup plus.
Alors là, je rentre du Japon. Quoi ? Quoi ? Eh ben, je peux vous dire que c'est lent.
Ah ouais,
c'est pas du tout l'image qu'on nous montre à la télé. Alors, c'est pas débat aujourd'hui, mais beaucoup, on en parlera hors interview, mais c'est pas du tout ce qu'on imagine. Ils sont tranquilles, ils prennent le temps de faire les choses. Vous allez au magasin, ils vous emballent le moindre chose que vous achetez, ils vous l'emballent, c'est 4 paquets, donc c'est. Non. Et ils font la queue, ils sont tranquilles, ça se stresse pas. Dans le métro, on attend que ça sort, ça rentre, ils font la queue les uns derrière les autres. Il n'y a pas de stress au Japon, hein. Aucun stress en fait. C'est pas du tout ce qu'on vous montre dans les médias. C'est un peu la différence entre ce qu'on vous montre réellement à la télé et la réalité en fait. Non. C'est pas des gros bosseurs non plus, hein, faut pas croire, hein. C'est 8h30, 17h30 de bureau. Hein. C'est pas l'ordre du jour, non, mais attention entre ce qu'on monte dans les médias et la réalité.
Ouais, c'est fou, hein, il y a un monde des fois.
Ouais. Et le pays le moins stressant que j'ai connu, je pense que c'est Bali.
Ah ouais,
alors, on va aller dans le temps. Hein. Bon, au Maghreb aussi, parfois, hein, il y a certains pays du Maghreb, où ils ont le temps aussi, c'est ça qui est drôle. Mais quelque part, ils ont raison. Pourquoi ils vont se stresser? Mais à Bali, vraiment, hein, vous commandez un truc, on vous attendait. Ça peut prendre 5 minutes ou 15 minutes. Mais c'est pas mal, parce que finalement, qu'est-ce qui est grave? Vous êtes là, vous êtes en vacances, vous attendez. Enfin, non, vraiment. Il y a des pays comme ça où il n'y a aucun problème, tout va bien, c'est tranquille. Et c'est les pays, souvent, on imagine le contraire. Voilà.
Ouais. C'est fou, franchement, c'est l'image qu'on a des choses et la manière dont elles sont. Vraiment, il y a un monde, c'est effrayant.
Ouais, c'est exactement ça. Bon, question sur... Ah, question là-bas. Ah, est-ce qu'il faut avancer sur les questions?
Selon vous, quelles actions ou projets sont les plus pertinents pour aider les jeunes dans leur choix d'orientation?
Les stages, la découverte de l'entreprise. Il n'y a que le terrain qui compte. Alors là, la question, elle est facile, parce qu'on peut vous faire rêver tout ce que vous voulez. Si on ne vous montre pas le métier ou ce qui se passe dans la vie, ça ne peut pas vous parler. Hein.
C'est vrai.
Si demain, je vous dis, j'ai envie d'être ébéniste, si vous n'avez pas touché le bois, si vous n'avez pas découvert ce que c'est, vous
allez choisir.
Ah non, non, c'est vraiment l'insertion. Alors souvent, les gens râlent, et c'est vrai que pour vous, c'est compliqué, parce que vous avez différents stages à trouver en entreprise. Souvent, on vous jette, on vous refuse, ce qui est une stupidité, parce que finalement, vous êtes des futurs travailleurs. Donc, chaque entreprise devrait accepter toutes les demandes de stage parce que ça fait découvrir un métier. Mais il y a qu'à aller sur le terrain. Vous ne pourrez jamais choisir un métier si vous savez que vous ne connaissez pas.
La question, elle est vraiment dans l'air du temps, on va dire. Hein? Parce que Loïc et moi, on est en seconde. Mm-hmm. Et donc, on est les premiers secondes, donc, parce que la réforme, elle est passée cette année, en seconde générale, bien sûr. Hein, parce que j'ai d'autres secondes, bien sûr, qui font leur stage et tout ça, et ils ont leur entreprise. Mais en général, c'est la première année où on a 2 semaines de stage. Mm-hmm. Donc, c'était particulier, mais c'était une bonne expérience. Donc, par exemple, moi, je suis allé faire mon stage en kinésithérapie. Mm-hmm. Parce que, par exemple, encore une fois, ma mère, elle me voyait beaucoup dans ce domaine. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis dit, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Parce que, malgré le fait que je ne veuille pas faire médecine, ou forcément dans le droit, ou ce genre de choses, ce n'est pas des choses qui ne m'intéressent pas pour autant. Et donc, je me suis dit, ça peut être une bonne expérience.
Il faut voir ce que c'est. Ouais, vous avez raison. Vous n'avez pas eu de stage à faire, hein?
Non.
Non, alors passer entre les mailles du filet.
Mais c'est pas passé. Franchement, c'est. Et parfois, il fallait faire des choses sur lesquelles on ne se voyait pas, et puis ça peut être une découverte.
Ah, mais je traînais les pieds par terre quand on m'a dit d'aller à un stage. Hein. Ah, je voulais pas. Hein. Ouais. Non, ils m'ont décalé mes vacances, hein, mon petit confort. Mais en fait, j'ai vraiment apprécié, ça m'a occupé. J'étais profondément intéressé par tout ce qu'on me disait, et je suis tombé sur quelqu'un de très gentil, mon maître de stage, Benjamin, qui m'a appris énormément de choses, parce que savoir que donc il y a la kinésithérapie, mais c'est énormément lié, c'est pas que des douleurs musculaires ou ce genre de choses, ou c'est énormément lié à d'autres domaines, que ce soit la médecine, l'ostéopathie, même des fois en rapport avec le mental, la psychologie, des fois elle est mêlée au bien-être. Je trouve qu'en dans notre pays, contrairement là où il a fait sa formation, il l'a fait en Thaïlande, et bref, les pays asiatiques, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, tout ça, c'est vraiment la culture du massage, la culture de ce genre de choses, ou la culture du bien-être, en fait, je dirais même. Ils sont très centrés sur le bien-être, et c'est pour ça que leur société fonctionne bien, je pense. Dans notre pays, on a vraiment l'habitude de catégoriser, de tout mettre dans des cases. C'est-à-dire qu'on a mis le domaine médecine dans une case, le domaine psychologie dans une case.
Lorsque j'ai eu un cancer, et lors de mon cancer, c'est même les médecins qui m'ont demandé d'aller voir du bien-être, j'ai fait de l'acupuncture. Ils commencent vraiment à lier les médecines douces et la médecine pure, comme vous le dites, et le bien-être. Ça commence enfin à arriver en France, mais ça va être un peu plus long que ce qu'on imagine. Et votre stage, vous l'avez fait où?
Moi, j'ai fait avec mon oncle,
oui,
la maçonnerie. Ouais.
Et alors?
En fait, j'avais déjà pu aller avec eux, enfin lui et mon père, du coup, sur le terrain. C'était pas ma première fois, du coup.
C'était quoi l'intérêt? Parce qu'on vous demande de faire un stage pour découvrir les choses. C'était un choix par défaut parce que vous n'avez rien trouvé d'autre?
C'est ça. En fait, okay. J'ai cherché autre part.
Ouais.
On n'a pas voulu prendre. Voilà.
C'est bon, je comprends les entreprises, et en même temps, c'est honteux. Parce qu'encore une fois, vous êtes les salariés de demain, vous êtes. Voilà, donc il faut qu'on vous fasse découvrir le métier. Ouais. Et je pense que vous avez pris ces refus de quelle manière?
Ben, j'ai pris mal.
Mais mal par rapport à quoi?
Par rapport au fait que ben, on nous dit de faire quelque chose.
Ouais.
Et dès qu'on fait l'effort, on se met dedans, on essaye de, ben, du coup, de vouloir être pris, de faire un stage, du coup.
Ouais.
D'apprendre à connaître le métier, mm-hmm. bah, qu'on nous refuse, ça fait un peu. On veut pas de vous.
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est antinomique comme situation. Hein. On vous demande de faire des stages, vous serez, vous êtes le futur professionnel, on vous refuse d'entrer à tout. Ouais. Ça, il y a un vrai travail à faire au niveau des entreprises pour ça. Hein, genre. Parce que finalement, vous êtes quand même une plus-value. Certes, on doit vous montrer des choses, mais vous allez quand même agir dans l'entreprise. Donc, c'est une plus-value pour eux aussi, on va croire.
Oui, c'est
vrai. Nous, voilà, lorsque j'étais restaurateur, moi, les apprentis, alors certes, c'est pas formation plus école, mais c'est une plus-value énorme. Ça nous apporte énormément, on va croire. Ouais, c'est assez compliqué, je pense, vous avez raison. Bon, on n'en parle pas, il n'y a pas de stage à faire, non, mais il y en a bientôt à faire. Hein.
Non, en fait, moi, je travaille déjà, en fait. J'ai déjà un métier et déjà...
Et... Vous l'avez développé, pour la copain.
Je sais dire. De, pareil pour l'embauche, c'était très compliqué. J'ai dû déposer à peu près peut-être une vingtaine de CV, peut-être une 25, je ne sais plus exactement. En tout cas, ça m'avait stressé. Je me suis dit, personne ne me répond, j'ai pas de réponse, ils ne sont pas intéressés, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai jamais trouvé de travail pour cet été. Au final, j'ai réussi à trouver tout de même. Et, j'ai eu une réponse positive et bah, c'est mon travail actuel. Du coup, et... Bon, c'est pas quelque chose que j'aime spécialement, mais je me dis c'est la seule entreprise qui m'accepte, donc autant y aller, être de bonne humeur et voilà, j'aurai mon petit salaire enfin et je serai contente. Ah,
vous avez ce café?
C'est dans l'hôtel
de restauration.
Ouais.
Au nouveau hôtel à Sassel.
D'accord. Et vous faites quoi?
Je suis commis de salle, c'est pas
mal. Ah ben pour quelqu'un de timide, ça vous apprend le contact avec les clients. Hein.
Oui, surtout que c'est des clients internationaux. Donc, hello, where's the salt, where's the plate, et toujours here, mister, here, madame, toujours. Du coup, ça. Ouais,
l'expérience, c'est bien.
Ouais, on vient commencer en bas de l'échelle. Hein.
Ouais, faut commencer quelquefois.
Où j'ai commencé à faire en faisant la plonge. Quand j'habitais en Tille, je travaillais dans les restaurants pour faire la plonge. Mais c'est un premier outil. Hein. Et puis, le premier travail, généralement, on est content parce qu'il y a un salaire au bout. Et ça rapporte un peu l'argent de poche pour toute l'année. Hein.
Et comme mon oncle me dit souvent, et quand tu veux manger, il faut bosser.
C'est ça, c'est exactement. Tous les métiers sont bons hein, quand il faut manger, c'est ça. Bon, question suivante. Parce que j'arrive tout, hein, c'est vrai.
Quel était votre métier de rêve étant enfant?
C'est ce que je disais tout à l'heure, le métier de rêve de mes parents, c'était pas le mien. Avocat ou médecin. Mais ça n'a jamais été mon rêve.
Ouais.
C'est et voilà.
L'illusion du saint grade.
Et c'est ça, exactement, c'est n'importe quoi en fait. Le métier de. On doit tellement. On nous le répète tout le temps que. Ouais, mais non, c'est pas le métier de rêve, quoi. Et donc. Mais je suis content de ne pas l'avoir fait. Hein. Parce qu'après, je pense qu'on a. Je sais pas si on regrette ou pas, mais si on s'épanouit pas dans ce qu'on fait, voilà. Donc je répète, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie. On n'écoute pas les autres.
Ça devrait, franchement. Ok, question suivante. On va accélérer un petit peu le mouvement.
Que diriez-vous. Hein, après, je coche. Ouais, c'est
pas
le conservateur. Ouais.
Que diriez-vous au jeune de 17 ans que vous étiez?
Je répète, je suis fier de ce qu'il a fait. Je suis fier de ce qu'il a fait, de ce que j'ai fait, et je suis ravi de ne pas avoir écouté mes parents. De ne pas avoir fait le métier qu'il voulait que je fasse. Alors, parce que j'ai toujours fait ce que je voulais, j'ai choisi tous les métiers que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Je ne connais pas les suivants, hein. Je pense qu'il y aura encore d'autres métiers que je ferai. Parce qu'aujourd'hui, à 50, plus de 50 ans, on n'est pas vieux, on a encore au moins 20 ans de bon sens. Et je lui dirais aussi. T'aurais pas dû arrêter le sport. Et ça, j'avais dit la dernière fois. Parce que je pense que la santé physique est importante et aide beaucoup à la santé mentale. Vous en parliez tout à l'heure sur le bien-être. Et à un moment donné, on se concentre tellement sur les études et le travail qu'on laisse un peu tout tomber. Et aujourd'hui, c'est un exutoire quand, à un moment donné,
c'est bon.
Ça stimule, ça fait du bien, ça vide l'esprit. Donc c'est peut-être la chose que je lui dirais. Ouais. Je suis fier de lui et continue à faire du sport. Une chose différente, mais c'est important. Voilà.
J'ai beaucoup aimé les termes que vous avez employés. C'est exactement en fait, c'est un exutoire. C'est un exutoire parce que on ne se sent pas forcément bien dans sa situation, dans sa vie ou autre. Hein. On ne se sent pas bien dans quelconque situation, mais quand on se sent bien dans son corps, ça aide ça aide énormément à se sentir bien ailleurs parce qu'on est à l'aise dans la manière de parler aux gens, dans la manière de se sentir, dans la manière de se porter. Et si on est à l'aise dans ces domaines-là, ça va tout seul pour le reste parce que plus on est à l'aise, plus les choses vont dans notre sens.
Quels sont, on va commencer par vous, tiens, parce que bon, c'est une question, j'avais assez droit là. Aujourd'hui, quand vous êtes mal, quand vous sentez mal, vous faites quoi? C'est quoi votre solution de sortie?
À combien?
Quand je me sens mal.
Ouais, ça vous arrive.
Bien sûr.
Ce sentiment parfois de ne pas être à votre place, de ne pas être bien, je ne sais pas, pas savoir ce que vous allez faire.
Je fais des choses qui n'aident pas forcément.
Mais c'est quoi? On n'a pas le droit de le dire, c'est ça?
Si, si. Je réfléchis de plus en plus, je peux écouter de la musique, je cherche quelque chose pour m'évader, ouais. Mais ça m'enfonce encore plus.
Alors, c'est pas la bonne solution.
Ouais, mais je
n'ai pas encore trouvé alors.
Comme dit.
Laissez-le parler.
Je vais rajouter quelque chose à sa situation. Lui, c'est quelqu'un de très complet. C'est quelqu'un de très complet parce que il assume tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il dit. Et des fois, ça va dans son sens, des fois, ça ne va pas dans son sens. Et la meilleure option pour lui, c'est de sortir, de se vider la tête. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit trop. Je dis tout le temps, il réfléchit trop. C'est pas la meilleure des choses à faire. Il faut agir.
Je réfléchissais. Vous savez, on a des super structures aujourd'hui qui accompagnent justement les jeunes dans cette situation. Ils ont simplement besoin d'évacuer et de parler. On prend en discuter à part. Mais ça fait vachement bien. Hein. Moi, ça m'est arrivé d'en voir. Parfois, j'en vois une juste pour faire le point aussi. Je pense que c'est pour ça. Ah oui, pourquoi? Bah, vous savez, lorsque vous êtes à des postes à responsabilité, vous devez prendre des décisions qui sont lourdes de conséquences. Parfois, ça fait du bien aussi d'en parler parce que chaque décision que vous prenez a forcément des conséquences sur la vie des gens, surtout dans le domaine social. Voilà, donc ça peut avoir des répercussions et parfois les gens ne comprennent pas et parfois les gens m'insultent hein, par rapport à des décisions que je prends. Alors je sais que c'est pour le bien commun, mais ils ne comprennent pas la décision tout de suite. Donc moi aussi, parfois j'ai besoin de parler. Ouais. Alors là, pour le coup, aucun problème. Hein. C'est pour ça que j'incite aussi à le faire quand on en éprouve le besoin. Et vous croyez que vous allez échapper à la question? Eh ben non. Je viens qu'elle tourne la tête. Vous avez un échappatoire? Le téléphone.
Non, en fait, c'est. En fait, quand je suis de mauvaise. Enfin, quand je suis pas de. Quand je suis des mauvaises pensées, on va dire. Oui, je vais sur mon téléphone, mais en fait, ça m'enfonce encore plus aussi parce que, par exemple, quand je suis sur les réseaux sociaux, à chaque fois que je suis de mauvaise humeur, le réseau social en question aussi est de mauvaise humeur. Du coup, je sais pas.
Il y a un algorithme.
Ouais, voilà, c'est à cause de l'algorithme. Et du coup, il met de mauvaise humeur. Et ben, moi, ça met pas de bonne humeur. Et enfin, ça dépend. Des fois, j'en parle à mes amis, à mes proches. Mais en fait, au final, je suis toujours un peu gênée parce que j'ose pas directement venir vers eux. Il faut que je te parle, j'ai besoin de parler, j'envoie surtout des signes, j'envoie des photos, je suis un peu triste, je me dis peut-être qu'ils vont comprendre que je suis triste, et tout, venez me voir, tu veux parler, est-ce que tu as besoin de quelque chose, et c'est surtout ça que je fais, parce que j'arrive pas à venir vers les gens en mode, coucou, j'ai besoin de parler, parce que je suis un peu de mauvaise humeur.
Mais quand alors que ce serait si simple?
Ouais, ce serait si simple.
Je dis, je vais pas bien, j'ai besoin de parler.
Ouais, ce serait si simple,
la connaissant, elle le fait pas, mais elle le montre.
Ah bah ça, c'est ça, vous ne pouvez pas, c'est écrit sur le visage.
En fait c'est ça, quand on sort ensemble, ouais. et que je vois qu'elle n'est pas bien, bah ça se voit. Donc moi je sais qu'elle aimerait bien qu'on lui dise oui, comment ça va être ça pour pouvoir le faire, mais donc, je sais pas, c'est pas une forme de honte, mais plus ça a l'air d'être limite quelque chose d'intime en fait.
Ouais, une petite forme de timidité.
Ouais, une forme de timidité, ouais.
Mais c'est ça en fait, j'ai dit ça, mais en fait, je suis souvent entourée de gens qui sont plus jeunes que moi, donc j'ose pas aller les voir et dire. J'ai l'impression que c'est à moi de faire ce travail, de venir leur voir en mode coucou.
Ouais, mais là encore, c'est déplacer le problème. De quel droit vous octroyez-vous la mission d'aider les plus jeunes?
Mais je sais pas.
Ah non.
Mais c'est parce que je suis venue avec toute ma famille.
Bah ouais, mais non.
Tu sais, genre, ça veut pas dire. C'est pas parce que t'es la plus grande que, par exemple, on vous le dit, on est cousins, elle et moi. Mm-hmm. Genre, c'est pas parce que t'es la plus grande que forcément t'as la maturité, t'as ceci, t'as cela.
La mission, elle est missionnaire.
Voilà. Bah, je sais pas qui. Tu peux en parler, ouais. Même avec quelqu'un de plus jeune que toi, ça se trouve, la personne, elle saura mieux réagir qu'un adulte. Mm-hmm. Ça veut rien dire, là.
Juste échanger, juste en parler. Il n'y a pas besoin de solution, parfois en parler, ça suffit.
Je sais.
Ouais. je rebondis sur ce que vous dites, effectivement, moi je continue, j'aime bien, je consulte, hein, ça m'est arrivé, de temps en temps j'aime bien, simplement parce que quoi, lorsque vous êtes chef d'entreprise, vous êtes tout le temps en train de décider. Les gens vous voient tout le temps prendre les décisions, faire, agir, réussir. Quand vous êtes tout le temps dans la réussite, ils n'imaginent pas que vous avez des fragilités. Donc vous n'avez personne en qui parler, parce que si un jour vous dites que vous allez mal, ils ne comprennent pas que vous allez mal. Parce que ça arrive comme tout le monde, hein, on est tous des humains, donc le fait de consulter parfois, ça aide aussi. Ouais. Parce que moi, j'ai comme moi, j'ai attendu longtemps, hein. Les amis voient que j'aille mal. Mais si je leur dis pas, ils peuvent pas l'imaginer, parce que vous ne montrez jamais. Mmh. Parfois, il suffit juste de s'exprimer, de dire les choses.
Mais après, je pense qu'avec un poste comme le vôtre, le fait de ne pas en parler aussi, c'est pour pas perdre la face.
Par rapport à quoi?
Mais vous avez une image à garder envers vos employés.
L'image de quoi?
Vous qui donnez tout le temps l'impression d'être la tête d'affiche, de devoir donner les ordres là où il faut, de gérer la situation. Si
ouais,
vous êtes désemparé.
Non. D'abord, c'est un fonctionnement, c'est un conseil d'administration, donc on est tout un conseil, je le préside, on décide ensemble. Or, certes, je suis l'image, je suis la représentation politique de la CAF, mais évidemment, je ne vais pas dire. À mes partenaires, qui sont des politiques ou des économistes ou simplement toutes les structures qu'on finance, que je vais mal, mais dans l'intimité, j'ai le droit de dire que je vais mal. C'est clair, les gens imaginent que voilà, vous êtes en haut, donc il ne faut pas fléchir. Vous croyez que Madame le maire ou le président de la région CEA ou le N2A n'a pas des difficultés? Ouais, non, c'est humain. On est humain. Attendez, à un moment donné, c'est qu'il y a des décisions qui sont prises, qui sont de conséquences, oui, comme on le dit toujours. Non, on est tous pareils, hein, pas fort. Hein. À plus haut niveau. Hein. Moi, j'aimerais pas aujourd'hui être à la place de certains hommes ou femmes politiciens, hein, parce qu'ils prennent des décisions, mais waouh.
Et ça en prenne plein là ce prochain mois.
Voilà. Mon poste est très facile, finalement, en tant que président du conseil d'administration de la CAF, parce que nous, on ne fait que donner. Pour le coup, on ne fait que donner de l'argent. On aide avec les prestations, avec l'aide sociale, avec tout ce qu'on fait sur le terrain, on ne fait qu'aider. Alors parfois, on me reproche, j'ai moins d'argent de la CAF. Oui, enfin, maintenant, si je t'ai donné sur une subvention, je t'ai donné 140 000 euros au lieu de 150 000 l'année dernière, ça va, quoi. T'as quand même déjà touché 140 000. Mmh. Voilà, il faut toujours relativiser à un moment donné. Ma fonction est très facile, en fait, parce que je suis là pour le bien des gens. Non, mais on ne sert qu'à ça, finalement.
C'est glorifiant, en plus. Hein. Vous ne faites pas ça pour rien.
Enfin, je fais pour les gens, je fais pas pour moi. Moi, le titre de président, je m'en fous, hein. Clairement, hein. Être président pour le titre, non, moi c'est être sur le terrain et prendre les bonnes décisions. C'est vrai que c'est peu commun, regardez, je suis là avec vous, pourquoi je perds mon temps? Je perds pas mon temps avec vous parce que votre expérience me sert aujourd'hui à travailler avec les services jeunesse, à faire évoluer les projets, à financer vos projets, là, soit sur l'ONG, sur d'autres, ou etc. Enfin voilà, venir vous voir, je sais ce dont vous avez besoin finalement, j'essaie de vous comprendre, comme toutes les structures associatives quand je vais. Je vais beaucoup dans les quartiers, dans les coteaux, je vais au coteau, à Bourtz, etc. Je vais voir les mamans, là il y a les mamans solidaires, je les ai rencontrées il n'y a pas longtemps, je trouve ça génial. Hein, mais non, j'ai pas de. Non, je crois que. Je le fais parce qu'il faut le faire et je suis content de le faire. Mais ça, parfois, l'ego, ouais, il y a l'ego. Parfois, il y a un ego tellement surdimensionné qu'il faut absolument qu'il soit en une des journaux, qu'on les appelle tout le temps président, monsieur le directeur. Non, c'est bon, on est passé à autre chose. Hein. Vous allez vous rendre compte que vous avez la chance d'avoir un maire à Mulhouse, madame le maire, qui sort d'ici de la mairie et qui rentre chez elle avec une baguette dans son sac. Vous l'avez jamais vu? Elle va à la maison, elle habite à côté, elle prend pas la voiture, elle prend pas le chauffeur, elle se balade avec son cabaret, sa baguette, quoi. Enfin, je veux dire, plus proche, elle peut pas, quoi. Les gens peuvent l'interpeller dans la rue, lui poser une question. Elle est maire d'une grande ville, quoi. On est plus de 100 000 habitants, c'est pas rien. Alors que dans des petites villes, 10-15 000 habitants, parfois,
on est pressant par la ville.
Ouais, c'est le roi du monde. Donc, pour le coup, sans prendre de position politique, hein, parce que j'ai pas le droit et je ne veux pas faire politique, je trouve que, il y a des gens qui savent rester humbles, et qu'est-ce que c'est agréable. Que je pense que vous l'apprenez aussi, madame le maire, ici. Elle est abordable, vous posez des questions, elle répond. Alors, il faudra oser parfois croiser d'autres hommes ou femmes politiques. Vous voyez, ceux qui ne vous répondent pas, on s'en moque. Mais la plupart vous répondront. Hein. Ils sont bien là, dans une mission de service à l'habitant, hein, comme on l'est. Moi, je suis le service des gens. Voilà. Question suivante, c'est ça? Allez.
Avez-vous des conseils pour les jeunes qui stressent quant à leur choix d'orientation?
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Vous changez quand vous voulez. Il n'y a pas de stress à avoir tout le temps. Alors, gardez ça en tête. Je fais mon choix, c'est pas le bon, c'est pas grave. L'année que j'ai faite qui m'a servi à rien, elle a servi à quelque chose, parce que vous avez eu des acquis et vous changez d'orientation. Voilà, vraiment, pour ça, c'est très facile. Il n'y a pas à stresser. Une année, 6 mois, 8 mois dans l'année, même 3 mois, qu'est-ce que c'est? comparé à 12 heures par jour sur un téléphone, ça en fait des jours. C'est quoi qu'elle disait. Donc ça fait 180 jours par an sur le téléphone.
Wow. C'est bon.
Et là vous vous dites, waouh. Oui, 180, c'est 6 mois. Donc finalement,
c'est énorme. Perdu.
C'est pas vous, hein. C'est que nous tous, on est sur nos téléphones. Et c'est l'idée, quoi. Donc, on perd pas d'années. Hein. On a constaté que notre orientation n'était pas la bonne. On garde les acquis, on passe à autre chose. Mmh. Ah, question nouvelle avec papier.
C'est parti alors. Quelles actions sont menées ou soutenues par la CAF du Haut-Rhin sur le sujet de la santé mentale?
Alors, sur la santé mentale, aujourd'hui, on va rentrer au conseil d'administration d'une association qui s'appelle le CAP. Notamment, c'est sur les addictions.
C'est l'abréviation de quoi?
Le CAP, non, c'est LE, plus loin CAP.
Ok,
comme un CAP. Voilà, santé mentale des jeunes, sur les ados, les addictions, aux écrans, aux drogues, au sexe, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est important. Et aujourd'hui, on fait des appels à projets qui vont aider les jeunes dans ce sens. La maison des ados, hein, on est un fort soutien sur la maison des ados. On soutient beaucoup les jeunes à faire plein d'actions à travers. Qu'est-ce qu'il y a?
Parce que je suis allé là-bas.
Et alors?
Pour une psychologue.
Ah oui, et ouais, alors ça s'est passé comment?
Ça s'est bien passé.
Voilà, c'est pour ça aussi qu'on les soutient aujourd'hui fortement sur le fonctionnement, parce qu'on pense que c'est nécessaire. Je trouve qu'on n'est pas assez sollicité. On a beaucoup oublié la jeunesse, on s'occupait beaucoup des 0 à 11 ans, 12 ans, mais les 12, 18, on a encore des lacunes, et aujourd'hui, on est à fond là-dedans. On veut vraiment y aller, donc on va développer plein d'actions sur la jeunesse, sur tout le département. Ouais. Mais on va commencer déjà par ces actions. Vous connaissez IDJ, on finance beaucoup les projets jeunes citoyens. Et sur les projets jeunes citoyens, aussi beaucoup de soutien comme ça par rapport aux jeunes qui ont des difficultés.
C'est pas un peu lourd à porter?
Non.
Du tout.
Pourquoi? Ben non, parce qu'on on essaie d'apporter un début de solution. Voilà. Et le monde rural, parce que vous vivez en ville, mais il faut savoir que les jeunes en ruralité, c'est pire que vous. Mais ils sont en vraie détresse parce que non seulement ils ont des problèmes psychologiques, enfin, d'accompagnement, parfois ils ne sont pas bien, mais comme ils sont accompagnés, il n'existe rien du tout. Donc quand ils sont chez eux, ils ne peuvent rien faire. Et ils n'ont pas de moyens de transport. Donc imaginez, vous habitez à 40 km de Mulhouse, au milieu des champs ou d'un petit village, qu'est-ce que vous faites? Ici, vous allez voir vos copains, vous sortez, vous discutez. Et je trouve que c'est très très compliqué pour le milieu rural, alors qu'avant, on n'avait pas identifié du tout la problématique. On se disait, au milieu rural, ils sont bien, ils vivent dans les champs, les petites fleurs, machin.
Ah, mais...
Non, non, pas du tout.
Il y a récemment, là, j'ai habité chez ma grand-mère, et il faut savoir qu'elle n'est pas de Mulhouse, elle est de Burnock plus haut. Lui, on va parler de Maslow, tout ça, je ne sais pas si vous voyez.
Oui, vous savez, je suis président de tout le département. Hein. Pas de l'Aude, hein. Donc je connais de Saint-Louis à Sainte-Marie-Aurine.
Moi qui. Nous trois, on habite tous les trois à Bourdes-Villers, donc on a la ligne de tramway, voilà, on a nos abonnements, on peut aller là où on veut.
À Burnop.
On a tout. On a tout en proximité. Ouais. Et là, j'ai habité un mois à Burnop, je me suis dit, oh punaise, mais je vais me tirer une balle en fait. Il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a que des champs, il y a un super rue, une boulangerie, qu'est-ce que je vais faire ici moi?
C'est ça, on a
commencé à la chance qu'on a.
Oui, exactement. On a développé sur le département depuis 2 ans maintenant ce qu'on appelle EPS Jeunes, c'est une prestation de service jeunesse, où on donne la possibilité aux communes, aux comités de communes d'embaucher des référents jeunes pour faire de l'animation justement pour les jeunes, pour les soutenir dans tous les cas, créer de l'animation, créer du lien, etc. Parce que finalement, ce qui manque le plus, c'est le lien social. Quand vous êtes tout seul, c'est une catastrophe.
Ouais.
Et c'est ce qui est là-dessus, déjà, on va peut-être recréer du lien social, et on peut imaginer qu'il y a une amélioration des situations. Et ça nous permet de détecter les cas les plus compliqués, voilà. Et après, de diriger sur des structures qu'on finance à côté. Voilà, pour répondre à cette question. Ensuite,
Vas-y.
J'ai une petite question. Ouais, elle est blanche, c'est ça?
Ouais. Alors, selon vous, quelles actions ou projets sont les plus pertinents pour aider les jeunes dans leur choix d'orientation?
On a déjà fait cette question.
Ok, il vient la poser. Excusez-nous. On va prendre celle-ci. Étiez-vous un bon élève?
J'étais un excellent élève jusqu'en seconde, première, un peu plus de 19 de moyenne générale. Ouais. Et je suis passé à 3,5 de moyenne générale l'année suivante. L'adolescence, anti Jean Lépin, les sorties, les boîtes, la mer, la plage, plus rien à faire de l'école.
Vous avez profité au moins.
Ce qui n'a pas manqué, ce qui m'a pas empêché ensuite de monter mes entreprises, de faire ce que je voulais, oui. J'avais complètement, c'est même pas du décrochage, c'est j'en avais rien à faire à l'école. Je correspondais à ce que voulaient mes parents, j'étudiais, j'avais J'étais l'élève parfait, mais l'enfant parfait.
C'était pas subi ce qui s'est passé, c'était voulu. Enfin,
les 3,5 ?
Non, les 3,5 c'était pas voulu, mais le fait de délaisser, de laisser un petit peu de côté le domaine scolaire pour pouvoir vous concentrer sur vous-même, sur votre vie, sur vos expériences, je pense que c'est pas un regret à l'heure actuelle.
Non, c'est pas un regret. Alors, c'est vrai que mes parents étaient donc dans la faillite de leur entreprise, donc ils étaient plus derrière nous. 16 ans, crise d'ado. J'arrivais, franchement, je me suis baigné toute l'année, hein, parce que j'habitais le nord de la France. Vous arrivez en type, j'en ai pas, même l'hiver il fait 20 degrés, alors on baignait toute l'année, les hommes vous regardent avec des gros yeux. Mais j'ai bouffé de la plage, des copains. Il s'avère que dans les fins des années 80, en type, j'en ai pas, les locaux, ce qu'on appelle les locaux de les gens issus au lycée, c'était des jeunes, ben, la plupart des jeunes avaient des petits voiliers. Donc tous les vendredis, on partait en mer deux jours, voilà, on restait sur les bateaux et on rentrait dimanche soir. Vous faites ça, vous n'allez plus à l'école, vous sortez, puis les boîtes de nuit c'était ouvert aussi, enfin vraiment c'était un peu
la belle vie. Voilà.
Enfin la belle vie, non, parce qu'il y a quand même un 3,5 moyenne générale qui a été un peu compliqué. Mais ensuite voilà, après vous ressaisissez. Donc moi ouais, j'étais un bon élève jusqu'à la seconde, ensuite un peu plus compliqué, et de nouveau après quand j'ai repris les études, voilà, c'était top, mais parce que j'ai fait un métier. Que j'avais décidé, que j'avais choisi et qui me passionnait. Donc dès que vous faites quelque chose qui vous passionne, c'est plus facile. Souvent, vous avez des élèves moyens qui vont jusqu'au bac et après ils explosent parce qu'ils vont dans ce qu'ils aiment. Parce que les études généralistes, hein, elles sont là pour apprendre les bases, quoi. Et après, c'est vraiment, quand vous vous dites, hein, quand vous faites des choses dans lesquelles vous éclatez, bah, c'est plus facile. Donc voilà, pour répondre à votre question, donc voilà. J'étais l'élève parfait.
Non, c'est une bonne anecdote. C'est une très belle anecdote.
Ouais. T'en as des questions papier pour elle, parce qu'elle m'a dit tout à l'heure, elle veut la poser. Non.
Non.
Un petit papier blanc.
Non.
Il y a encore deux là.
Alors, selon vous, quels types de projets sont les plus pertinents pour lutter contre la pression scolaire?
Répétez la question. On peut me tromper sur la réponse.
Selon vous, quel type de projet sont les plus pertinents pour lutter contre la pression scolaire?
Des projets extérieurs. Il faut sortir du domaine scolaire. Mmh. Je crois qu'il faut lier l'apprentissage à l'école à l'apprentissage de la vie. On a financé dernièrement une cabane en bois pour la ville de Bervillers, pour les jeunes. Ils étaient au projet de Alors c'est en forêt, hein, c'est pas loin du centre-ville. Et je trouve que ça fait baisser la pression scolaire parce qu'ils étaient concentrés sur autre chose. Je pense qu'il faut décharger la charge de l'école. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la réponse qu'il faut apporter à cette question. Mais je trouve que pour décharger la pression scolaire, il faut faire autre chose. Il faut arrêter de penser qu'à l'école. Voilà. Ah, si je dis ça avec tes paroles, écoute. Je pense que l'expérience de la vie vous apporte beaucoup en plus de la scolarité. Ouais. Donc là, vous êtes sur des constructions de projets, de toute façon, encore une fois, je le répète, mais il y avait IDJ, il y en a beaucoup qui sont allés sur IDJ, j'imagine. Non? Est-ce que quelqu'un a pas encore?
Non, enfin, moi je le fais, mais au final,
Allez-y, c'est génial, ouais, mais allez-y, oui, parce que franchement, je vous conseille d'aller sur IDJ, parce que tant qu'on peut vous soutenir, c'est important. Mm. Et puis vous faites ce que vous voulez, quoi. Montez un projet entre vous, et allez-y, quoi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est votre premier projet construit, premier voyage en autonomie, comment vous allez faire ça, ce que vous allez retirer comme expérience. Mm. Ouais. Ouais, je pense que sortir du système scolaire un peu, ça aide à faire baisser la pression scolaire.
C'est vrai.
Parce que vous avez l'esprit plus libéré. Mmh. Et ça vous dit plus que, oui, vous regardez une comme vous, là, qui est tout le temps en train de réfléchir. Occupez vos mains, faites quelque chose, vous allez voir, l'esprit ne va pas délirer. Hein. Il ne va pas partir, hein. Il ne va pas dériver vers des pensées autres. Vous êtes concentré sur ce que vous faites. Voilà. Au lieu d'aller faire moi, là, vous avez fait le stage, vous êtes deuxième avec l'oncle, c'est ça,
ouais, c'est
bah, la prochaine fois, au lieu de faire ça, monter un projet sur EDJ. Et comme ça, ça vous permet de partir une semaine, 15 jours, et voir autre chose que le bâtiment.
C'est super.
Quoi?
C'est super.
Vous avez la chance d'avoir tout ça sur une ville comme Mulhouse. C'est un truc de dingue, en fait. Moi, j'avais pas ça. Si j'avais 17 ans aujourd'hui, je dirais aux jeunes qui avaient 17 ans, file à IDJ, file là, prends sac à dos, parce que sac à dos, il faut le faire. Hein.
Non, il y a des bons plans, quoi.
Sac à dos, une année, on vous donne 400 ou 500 euros pour partir en voyage.
C'est immense, c'est une somme immense.
Ouais, non, mais c'est ça. Puis avec les billets d'EasyJet qui coûtent rien, plus la carte bleue qui est chargée, plus les assurances, plus tout, vous seriez bête de ne pas faire sac à dos. Hein. Surtout vous avez l'âge, quoi. Ah ouais, je la conseille, un gamin de 17 ans.
Il y a souvent des débats ici au CDJ, enfin on se pose un peu table ronde comme ça, et on a des petits jeux voilà, avec des cartes, un peu comme ça, mais en petit comité, voilà, donc on est là, on fait ce type de débat, et on en a parlé l'autre fois justement, parce qu'il y a beaucoup dans notre génération des dépressions ou des décrochages scolaires, ce genre de choses, le moral dans les chaussettes, comme on dit. Et comme dit, c'est une énergie destructrice qu'on met sur soi-même. Alors que ça reviendrait à se regarder dans le miroir et chercher petit à petit chaque défaut qu'on a sur le visage. Au lieu de recentrer cette énergie ailleurs, donc comme dit, s'occuper les mains, s'occuper l'esprit, faire quelque chose qui nous plaît ou même simplement s'occuper pour se vider la tête. Parce que si on est en boucle, s'il n'y a qu'une seule information qui passe dans le cerveau, bien sûr qu'on va finir par devenir fou, qu'on va finir par s'en vouloir à soi-même ou trop réfléchir comme certains le font. Mais il faut juste se recentrer cette énergie.
Sur le conseil des jeunes, vous pouvez réfléchir, c'est vous, c'est pas moi qui ai inventé ce projet. Vous avez un projet qui est tout fait. Déconstruire la pression familiale et sociétale. Parce que j'ai l'impression que tout à l'heure, vous parlez de cette pression familiale qui a l'air énorme, hein, qui est énorme a priori. C'est vous qui le dites, c'est pas moi, vous tous.
C'est vrai. Trois,
hein. Comment la déconstruire? Est-ce que c'est en communiquant avec les parents? J'en sais rien, j'ai pas la solution. Hein. Il faut peut-être réfléchir à ça.
Je pense qu'il n'y a pas de
solution.
C'est-à-dire
qu'il y a des choses qui marcheraient pour certains, d'autres non. Par exemple, la communication avec les parents, moi je pense que ça pourrait marcher, mais avec d'autres, toi ça, je ne sais pas, peut-être ça ne marcherait pas. Je pense qu'il y a plusieurs plans.
Ça marcherait peut-être pas la communication, mais si les parents le voyaient faire autre chose, ou alors qu'il s'éclate, c'est pas en discuter, mais c'est juste visualiser, peut-être que ça pourrait marcher, oui. En tout cas, c'est peut-être réfléchir à ça, parce que j'imagine qu'il y a quand même une ligne de conduite, alors comment faire effectivement le visuel, le langage, enfin j'en sais rien. Mais c'est peut-être un sujet de réflexion au conseil des jeunes. Voilà. Dernière question papier blanc, là.
Ouais.
Comme ça, on les a toutes faites, celle-ci.
En tant que présidente de la CAF du Haut-Rhin, comment pouvez-vous agir pour la santé mentale des jeunes?
C'est bien, on l'a déjà posé, celle-ci.
Ah bon?
Ouais. On les a toutes posées, je
crois. On a fini avec les questions.
Ah ouais, on les a tous posées.
Quelles ont été vos motivations lorsque vous avez choisi votre métier actuel? Mais ça, on en a une similaire tout à l'heure, je pense.
Non.
On vous l'a posé de nous-mêmes.
Mon métier actuel. C'est-à-dire, enfin, mon métier actuel, j'ai pas de métier. Hein. C'est une fonction. Il faut vraiment faire la différence. Hein. Je suis pas salarié de la CAF. Hein. Pas du tout. Hein. Je suis que le président et le président en même temps.
Mais vous êtes salarié de l'État, du coup?
Non. J'ai pas de fiche de paie, j'ai rien. J'ai eu la chance de réussir ma vie, qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de travailler. Non, être président du conseil d'administration, je préside le conseil et je travaille avec mon directeur avec lequel on choisit la grande politique. Je ne suis pas salarié.
Et pour la rémunération, ça se passe comment?
J'ai pas de salaire. Et alors? Ça vous pose un problème?
C'est
une vocation, ce qu'on appelle une vocation. J'ai quelques indemnités, mais attention, hein, elles sont... Il n'y a pas de quoi vivre forcément avec les indemnités. Non, je le fais vraiment parce que j'ai décidé de le faire. J'ai choisi cette fonction, ça vous surprend, hein? La chance, la vie a été très généreuse avec moi, vraiment. Je me suis éclaté dans tous les métiers que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être assez libre financièrement parce que j'ai fait des investissements et tout va bien. Je l'ai choisi parce que ça me permet de rendre ce que la vie m'a donné, justement. J'ai tellement reçu, alors j'ai eu des hauts, des bas, mais j'ai tellement été heureux dans tout ce que j'ai fait qu'aujourd'hui, c'est agir pour les autres. C'est comme être maire d'une ville ou être conseiller au conseil des jeunes, c'est du bénévolat au conseil des jeunes.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est pareil. C'est pareil pour un président de CAF de tous en France. Hein. On a quelques indemnités, mais ça vraiment, ça casse pas les gars. Hein. Mais voilà, je fais vraiment parce que j'ai envie d'agir sur le terrain. C'est pour ça que j'ai pas de pression. Parce que on peut pas me dire, quand j'ai pris les fonctions, on m'a fait une réflexion qui était un peu amusante. On m'a dit, il préfère arrêter son restaurant parce que j'avais un restaurant à Meudouze, et prendre l'argent de la CAF. J'étais tranquille parce qu'il n'y a pas de salaire. Et c'est vraiment parce que j'ai envie d'être au service des gens. Ouais. Je sais, c'est bon d'avoir cette question. Je fais vraiment
ça
parce que c'est...
Ma réponse, ouais. Ça, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui... Je sais pas, la pub, elle passe bizarrement parce que c'est la première fois qu'on me dit... Vous m'avez regardé, vous m'avez dit, dans le blanc des yeux, non, j'ai pas de salaire.
Ben non.
J'ai pas de salaire, ben j'ai
non.
pas...
Non, mais ben non.
C'est particulier quand même.
Mais pourquoi?
Parce que c'est pas commun, simplement.
Il y a beaucoup de bénévolat, vous imaginez pas. Dans le Haut-Rhin, c'est le département où on a le plus de bénévolat en France. Beaucoup d'associations qui marchent qu'avec le bénévolat. Les gens qui donnent leur temps pour faire marcher des structures d'accueil. Hein. Vous avez des garderies, des halte-enfants, etc. Où vous avez 50-60 salariés et à la tête de ça, c'est le monde associatif, les gens ne sont pas rémunérés. Non. En tout cas, je fais cette fonction parce que j'ai envie de le faire. Ce qui prouve bien que je le fais par
vous conviction.
Savez, mais je suis magistrat, donc je m'occupe de la vidéo. Je suis au tribunal de la chambre commerciale. En tant que magistrat, j'ai zéro de salaire. On n'est pas rémunéré non plus. Il y a plein de métiers où vous n'êtes pas rémunéré. Là aussi, c'est comme je ne suis pas un magistrat classique, je n'ai pas fait 11 ans d'études, etc. Je suis à la chambre commerciale, je m'occupe des entreprises parce que je suis chef d'entreprise. Et que voilà. Donc voilà. Et le président de la CAF, c'est pareil. Donc il n'y a pas d'intérêt sinon être au service de la clientèle. Ça, ça vous perturbe, quoi, vraiment.
En fait, je trouve que vous avez une force de caractère, c'est incroyable quand même. Parce que comme dit, bon, on s'en fout de la pression sociale et tout ça, mais même si elle existe tout de même, et que même voilà, pour votre entourage et tout ça, c'est particulier quand même d'avoir quelqu'un dans son entourage comme ça. Je trouve ça admirable d'ailleurs. Hein,
franchement. Non, il y en a plein, c'est que vous regardez passer, vous êtes trop jeune. Vous regardez. Quand je vois le nombre d'élus ou de gens qui font du bénévolat ou qui sont dans la municipalité, il ne faut pas croire qu'ici les adjoints maires gagnent des fortunes. Quand je vois le temps qui passe pour ce qu'ils font, pour se faire insulter, parce que finalement ils se font qu'insulter, enfin à un moment donné, il y a ceux qui sont pour et qui sont contre, moi j'aimerais pas être à leur place. Moi ça va, à part une ou deux fois, les gens ne sont pas très agressifs avec moi, parce qu'ils ont peut-être peur de perdre leur prestation, alors que j'ai aucun pouvoir là-dessus. Hein. Faut être clair, hein, c'est pas moi qui décide, c'est prestation reverse pour l'État. Mais ouais, je fais ça parce que j'ai vraiment envie de le faire. De toute façon, je suis limité dans le temps. On a le droit de faire deux mandats de président, donc une fois 4 ans, ça peut être renouvelé si le conseil d'administration m'en est élu, me vote encore une fois.
Donc là, ça fait combien de temps?
Ça fait 2 ans et demi.
Okay.
Bon, ça fait 14 ans que je suis au conseil d'administration. J'ai commencé administrateur, après j'étais vice-président et là je suis président. Et voilà, dans 1 an et demi, il y a de nouvelles élections. Si la chance est prévue, je ferai 4 ans et après ça s'arrête. Voilà. Mais en tout cas, je me dis, si je ne fais que 4 ans, je serai content de ce que j'ai déjà fait sur le terrain.
Pour le moment, investi et patient quand même. Hein, parce que
ouais,
vous avez gravi beaucoup d'échelons pour arriver là où vous en êtes. Et vous
êtes fiers de vous. C'est les opportunités.
Wow.
Non, et ça il faut que vous mettiez en tête aussi les opportunités dans la vie. Vous ne savez pas pourquoi, mais on va vous proposer une chose qui va en entraîner une autre. Hein. Vous ne savez jamais comment ça fonctionne. Moi j'ai commencé quand je suis arrivé à Mulhouse, donc j'ai arrêté les hôtels, je me suis acheté un restaurant et finalement j'ai un client de mon restaurant qui était un vieil avocat de Mulhouse qui m'a dit est-ce que le droit ça peut t'amuser. Il m'a dit oui, ben écoute, tu vas rentrer au prud'homme. Et tous les jours il me donnait 1 heure de cours de droit. Vous allez pas refuser un vieux bonhomme de vous donner 1 heure de cours de droit tous les jours, enfin c'est pas possible. Donc voilà, et après je suis rentré au prud'homme, et ensuite on m'a dit tiens, ce que tu fais au prud'homme c'est plutôt pas mal, on a aussi un siège qui s'est libéré à la CAF, on va voir ce qui se passe, je vais voir. C'est vraiment que des opportunités. Il faut toujours regarder autour de vous, vous commencez dans votre vie, mais vous allez voir l'expérience aujourd'hui que vous avez dans l'hôtellerie-restauration, ça va peut-être déclencher ou ouvrir de nouvelles portes. Il faut toujours être à l'affût. On n'a pas de chance dans la vie, hein. Et pas de chance ou de malchance, c'est saisir ou pas des opportunités.
C'est des choix.
Ouais, c'est que des choix. Et ils sont toujours bons. Il n'y a pas de mauvais choix. Le choix que vous faites à l'instant T, c'est parce que vous l'avez choisi. Donc c'est le bon choix parce que c'est votre choix. Si vous faites le choix de vos parents, il va toujours être le mauvais. Parce que ce ne sera pas votre choix. Sauf si vous avez tous les deux envie de faire le même choix. C'est votre choix qui compte et ce n'est pas le choix des parents. Et là, je pense que si j'écoute ça aussi, ils vont me demander.
Ce discours, on peut penser à celui de M. Minéry.
Non, mais. Oui. Mais c'est un truc de dingue. Voilà, il faut vraiment que vous soyez acteur de votre vie et pas subir. C'est la dernière, c'est ça?
C'est la dernière.
C'est la dernière question, ouais. avez-vous connu des échecs pendant votre parcours? Comment vous êtes-vous relevé?
J'attendais cette question.
Pourquoi?
Parce que je connais votre réponse et du coup.
Alors allez-y, qu'est-ce que vous avez retenu?
Eh bien, dans la vie, au final, il n'y a pas d'échec. Il
n'y
a que des expériences parce que dès qu'on fait quelque chose, même si on a l'impression de l'avoir raté, au final, on a fait ça et c'est une expérience. On sait que peut-être on ne va pas le refaire, peut-être qu'on va refaire mais s'améliorer. Enfin, c'est toujours une expérience et jamais. C'est toujours un accomplissement.
C'est vrai. Ça vous a marqué ça?
Ouais,
c'est vraiment. Oui, effectivement, c'est une mentalité très française. On a la culture de l'échec. Dans beaucoup, dans les autres pays, on a la culture de la réussite. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'échec. La réussite, c'est vous faites une chose, elle doit s'arrêter, elle s'arrête, et les acquis. C'est un autre chose. Mais c'est bien, hein. Si au moins vous avez retenu ça, c'est génial. Parce qu'au moins, ça va tout le temps que vous étiez dans la vie. Il n'y a pas d'échec.
Exactement. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps.
Je vous en prie.
Et donc voilà, on est aujourd'hui avec le président de la CAF et 3 jeunes. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va terminer la Coupe Chocolat Chaud.